Afrique, contrairement aux idées reçues et répandues en Occident. C'étaient des savoirs politiques, juridiques et médicaux du XIIIe au XVIIe siècle. Bonne journée.
Oui, salut Daniel, merci pour toutes ces émissions, surtout celle d'aujourd'hui. Un moment d'histoire là qu'il ne faudrait peut-être pas oublier, qui pourrait servir actuellement de modèle et nous redonner un petit peu d'espoir. Il s'agit des réquisitions de Marseille sur la décision de Raymond Aubrac en 44, 15 entreprises de Marseille ont inventé une forme de gestion participative pour aider à la reconstruction du pays. Ce film a été fait en 2004, on y voyait encore Raymond Aubrac, et puis des acteurs effectivement de ces mouvements de résistance. Ce serait intéressant de nous rappeler tout ça. Il y avait un délégué aussi des Fralib qui se trouvait là.
Bonjour, je viens d'écouter l'émission du 28 janvier. C'est juste pour vous signaler que Moy, ça veut dire sauvage. C'est les colons français qui appelaient toutes les tribus de l'Indochine Moy. C'est péjoratif. Et je suis aussi étonné que vous continuez d'employer ce vilain mot, Moy, pour les travailleurs vietnamiens. Ah, il y a aussi un monsieur qui dit qu'il lui a fallu 3 mois en 39 pour faire le trajet d'un bateau Vietnam-France. Dans les années 1910, Yersin mettait juste moi en bateau. Allez, salut.
Le saviez-vous, la dernière cartouche n'a pas été tirée. Le saviez-vous, ça se passe en France. Le saviez-vous, la guerre est déclarée. Le saviez-vous, on tue en silence. Le saviez-vous, la ruralité. Le saviez-vous, la bataille des Ardennes n'est pas terminée. Le saviez-vous, notre gouvernement achève le travail de l'UMP. Le saviez-vous, Bazeilles, Buzancy, Château-Porcien, Givet, Le Chêne, Liard, Signy-le-Petit. Le saviez-vous, la ruralité ne se meurt pas, on la tue. La lutte des classes n'est pas terminée. Éducation, service public, c'est la République qu'on assassine. Le saviez-vous? Vous ne le saviez pas? Eh bien maintenant c'est fait. Ardennes, la lutte continue. Non aux fermetures.
Le Repère de Londres organise son second repère de l'année, le mercredi 30 janvier à 19h. Nous serons à l'hôtel Henri VIII, qui se trouve au métro Queensway. Le thème de cette soirée sera l'Europe, comment ça marche? Et deux spécialistes, deux AMG, viendront discuter avec nous du rôle du Parlement et de la Commission. Merci, venez nombreux.
Oui, c'est Pierre de Haute-Savoie. Ben, une fois de plus, c'est pour dire merci à Mermet de mettre en avant le fait que les syndicalistes sont pas du tout démocratiques, parce qu'ils emmerdent ceux qui doivent aller bosser. Donc c'est très bien, hein, messieurs, hein, mais votre petite lutte CGTiste, etc., ultra-syndicale, vous êtes vraiment toujours des victimes, donc c'est vraiment agréable à entendre. Et moi, je pense à ceux qui aimeraient bien aller bosser, qui n'ont pas trop le choix, ou alors qui sont tout simplement, se disent qu'il vaut mieux aller bosser que de faire autre chose. Donc voilà, toutes vos luttes ne sont pas forcément les bonnes.
Je suis en train de savourer une mandarine. Mais alors, une mandarine très particulière, parce que je suis dans un endroit très particulier, en Tunisie. À l'endroit d'où est partie la révolution. On a célébré récemment le 2e anniversaire de la révolution tunisienne. Et alors on est venu ici en Tunisie pour dire, on va faire le bilan un peu de ces 2 ans de révolution. Et on nous a dit, non, c'est pas 2 ans, c'est 5 ans. Ah bon, 5 ans? Et effectivement, si on écoute les gens autour de nous, ici, à Redeyef, c'est de là que c'est parti. C'est de là qu'est partie cette révolution, à partir de la révolte des mineurs du phosphate ici, dans cette région de la Tunisie. C'est eux qui se sont battus, c'est eux qui ont eu la police en face d'eux, c'est eux qui ont eu des morts, c'est eux qui se sont mobilisés. C'est les femmes d'ici qui ont manifesté courageusement, et c'est eux qui, distillent aujourd'hui, ont fait tomber le mur de la peur. Quelques hommes, quelques femmes dans une région déshéritée de Tunisie. On la connaît un peu cette histoire, mais on ne la connaît pas assez et on la connaît très très mal. L'histoire est en train de s'écrire de travers en Tunisie. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Vous allez voir que ça a un rapport avec ce que Antoine Chao va nous faire entendre sur ce qui s'est passé ce matin concernant PSA, les ouvriers, les salariés de PSA, et qui ont découvert, qui ont vécu un coup de théâtre tout à fait stupéfiant. Alors évidemment, c'est pas une victoire, mais enfin c'est quand même un coup de théâtre qui nous rappelle que c'est ici, qui nous renvoie à ici, oui, parce que finalement, ben, c'est quelques militants, quelques salariés, quelques grévistes qui parfois changent la face du monde, tout simplement. Ceux d'ici ont provoqué la révolution tunisienne et puis qui a entraîné l'Égypte, la Syrie, la Libye, le Bahreïn, le Yémen, etc., dans une suite que vous connaissez. Donc on va retrouver Antoine Chao et puis Agathe. Vous n'oubliez pas Agathe. Et puis après, on ira retrouver Adama Camara. Adama Camara, on l'avait rencontré en 1997, où donc au Mali, Moussa au Mali a gagné, oui, un petit patelin qui s'appelle Gagny. Et on a retrouvé ensuite Adama Camara, non loin de Gagny, près de Paris, à Meaux. Vous allez voir cette destinée, ce portrait d'un Malien qui aujourd'hui est président, dit-on, des Maliens de Meaux. Donc, d'abord PSA, Agathe, Antoine Chao, et ensuite Adama Camara.
Alors ce matin, c'est rendez-vous à 9h30 à PSA Aulnay pour partir vers le siège social de PSA qui est à Paris dans le 16e arrondissement, avenue de la Grande Armée. Ça y est, la délégation donc PSA Aulnay arrive avenue de la Grande Armée.
Aujourd'hui, on est là, et demain, on poursuit. Contre le licenciement.
Alors, il y a un tapis rouge qui a été déroulé en travers de l'avenue de la Grande Armée et tout le monde s'engage là, derrière la banderole, jusqu'à l'entrée du siège. Ouais, et toi, Agathe?
Ouais, l'arrivée en fanfare, tu vois. Ouais, c'est pas mal.
Alors, il y a du nouveau quand même. Il y a une suspension, si j'ai bien compris, il y a une suspension du plan de licenciement.
Alors, c'est pas annulé, c'est suspendu. Ça veut dire que toutes les entreprises sous-traitantes n'avaient pas été informées légalement du plan de licenciement, ce qu'on appelle le PSE. Donc là, il y a Forestia, un des sous-traitants, qui a demandé au tribunal de juger de la légalité de cette façon de faire. Et le tribunal a jugé que, effectivement, le cadre législatif n'avait pas été respecté. Donc ils ont demandé à PSA de suspendre le PSE, ce qu'on appelle le PSE, le plan de licenciement. Bon, voilà, c'est un délai supplémentaire pour nous, pour nous organiser, pour que nos revendications soient satisfaites, mais il n'est pas annulé malheureusement, donc il y a encore la bagarre, elle est encore à mener. Ça nous permet d'avoir un peu plus de temps pour nous bagarrer. Ça veut aussi dire que PSA, ils font les choses comme des cochons, comme d'habitude, qu'ils n'en ont rien à faire non seulement de nous-mêmes puisqu'ils nous foutent à la rue, mais aussi des sous-traitants, tout ça, ils traitent tout le monde de la même façon, quoi, vraiment avec mépris. Autrement, il y a aussi du nouveau, puisque on est 5 à avoir reçu des convocations par la Sûreté territoriale, donc ça émane vraiment du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Ils envoient 5 convocations à la Sûreté territoriale, 5 grévistes pour nous faire comparaître comme des délinquants, comme des casseurs. Alors que c'est PSA qui a cassé l'usine déjà en 2008, ils ont supprimé un montage. Et là, ils veulent fermer une usine, ils veulent casser encore une usine. Et c'est nous qui passons pour des casseurs. Voilà. Mais bon, on a la pêche, faut pas s'inquiéter. Au contraire, quand on nous pique, ça nous motive.
Là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, les camarades, c'est une nouvelle démonstration de force. On a réussi à enraciner la grève. Et de ce que je sais, il y a encore plus de grévistes qui ont pris leur carte de grève. Et puis il y a 50 intérimaires qui ont osé avoir le courage de se mettre en grève ce matin dans l'usine de Lille.
C'est Jean-Pierre Mercier, délégué CGT à PSA Aulnay.
Vous avez sans doute entendu parler de cette nouvelle ce matin dans la presse sur la suspension du plan de suppression d'emplois, le plan de suppression d'emplois de Varin. Alors de quoi il s'agit? D'abord, je tiens à dire que c'est un très mauvais coup pour Peugeot et donc une très bonne nouvelle pour nous les salariés. Et aujourd'hui, la cour d'appel vient de rendre son verdict. Elle donne raison sur la forme à la CGT de Faurecia. La cour d'appel impose à Peugeot de suspendre son plan de suppression d'emplois provisoirement, donc la fermeture d'Aulnay provisoirement.
Voici mon message. Hier à Asnières, le député-maire Pietra Santa recevait à l'espace Concorde Manuel Valls pour une galette pour les vœux. RESF, la LDH, le NPA, le Front Gauche et puis d'autres avaient appelé à un rassemblement très pacifique au bout de la rue pour protester contre la politique à l'égard des Roms, des sans-papiers. Eh bien, nous avons été encerclés et littéralement presque étouffés par des policiers qui nous ont retenus, séquestrés, je dirais, à l'air libre pendant 3 heures sur ce bout de trottoir. Une femme se trouvait mal, une autre avait très mal au genou. Ils ont dit « mais vous étiez là, vous êtes venu, vous n'avez qu'à y rester ». Nous avons tous été horrifiés, nous avons tous un long passé de militants, enfin pour la plupart, et jamais on a vu ça, jamais je ne pensais sous un régime socialiste être privé de la liberté d'expression et de mouvement. Enfin, si c'est ça le changement, eh ben moi je n'en veux pas. Au revoir.
Dimanche, dans l'émission Cause commune, le journaliste de France Inter, Abdennour Bidar, invite le politicien Jean-Paul Delevoye pour parler du burn-out à la française et crise de civilisation. Le journaliste et son invité s'accordent à dire, pendant une heure, que les Français sont hélas bercés depuis trop longtemps par la société de consommation à outrance et que chaque citoyen n'a de projet que pour lui-même, n'ayant pas de grands objectifs collectifs ni d'espérance nationale, qui n'existe plus depuis des dizaines d'années. Monsieur Delevoye exprime même, plein d'emphase, que pour vaincre la crise, il faut relever la tête et choisir autre chose que ce qui nous a été présenté depuis trop longtemps et oublier Tina, There is not alternative, de triste mémoire. Mais avec un peu de recul, tous ces beaux mots s'effacent et je me permets de dire ceci à monsieur Jean-Paul Delevoye. Monsieur, depuis 30 ans, vous avez participé, en tant qu'élu RPR puis UMP, à courir avec la motte des loups qui hurlaient de plaisir « Tina, there is no alternative ». Sans jamais écouter ni les véritables penseurs, ni les véritables économistes, je pense à vous et à tous vos amis UMP et PS qui ont tenu les laisses durant tant d'années et qui aujourd'hui regardent dépités la collectivité française amochée, détruite, comme Néron en son temps regardait Rome dans le brasier qu'il avait lui-même déclenché.
On dit souvent un adage de chez nous, si l'enfant pleure, l'enfant va toujours vers son père ou sa mère. Pour nous, la France, c'est comme un père pour le Mali.
Bon, maintenant, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon gosse, j'ai perdu ma femme. Bon, pendant 7 mois, maintenant, j'ai trop fatigué là.
C'est quoi vos décorations, dites-moi?
Les décorations sont, il y a la croix de guerre, la médaille coloniale, et la croix militaire, la médaille 39-45, la coopérative d'Indochine.
Thank you.
Non seulement nous, nous avons besoin de la France aussi a besoin de nous. La France a besoin de nous. Si l'Afrique meurt aujourd'hui, demain, la France va mourir. Hein?
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si je suis, au Mali.
Flight number 2, arriving from New York.
Il est désespéré. Le CAC 40 a baissé. Les marchés financiers réagissent. La bourse va-t-elle s'effondrer? À l'arrière, de la benne à ordures, les boueurs est très inquiet. La France, dans ces conditions, se demande-t-il, la France parviendra-t-elle à réduire les déficits publics? Et l'euro? Et Maastricht? La World Company va sévir. Monsieur Sylvestre va nous gronder. Mauvaise Grèce, archaïque, français. Il s'inquiète, les boueurs. Quel coup de semonce! Quel avertissement! Il est paniqué, l'oreille collée à France Info. Il se demande, et le dollar dans tout ça? Et le yen? Que dit Wall Street? Rude journée, grosse goutte de sueur sur le front des boueurs. Si le riche maigrit, le pauvre meurt. Si le riche maigrit, le pauvre meurt. Il connaît bien le proverbe libéral, les boueurs, et il a peur. Il faut que les riches grossissent encore pour que les pauvres ne meurent pas tout à fait. Imaginez que les riches ne fassent plus d'ordures. Alors les pauvres n'auraient plus de miettes, que des petites crottes toutes sèches sans aucune vitamine. Pour les enfants, il s'appelle Adama, les boueurs. Il est noir, africain. Eh oui, et il a une montre. Avec quel argent cette montre? Avec quel argent? C'est simple, en revendant ce qu'il a piqué dans votre frigidaire. Et boire malien. On a voulu aller voir ce qu'ils font justement de tout ce pain que depuis si longtemps ils volent aux Français. Nous sommes allés à Kai, dans la région de Kai, au pays Soninké, où depuis si longtemps, les éboueurs de Paris, de France et d'ailleurs viennent chez nous pour tâcher de survivre. De la pirogue à la benne à ordures, ici il est éboueur, là-bas il est chef de village. Du fleuve Sénégal au fleuve Seine-et-Marne, de Meaux, près de Paris, à une petite ville, là-bas, au bord du fleuve, qui s'appelle Gagny. Oui, comme Gagny, ça ne s'invente pas. Voilà où nous partons aujourd'hui, avec 3 bars sur le front.
Kele ta te jarabila anga fato de sa anga fato, anga maramu seta fato, anga lalia seta fato, anga mama seta fato, anga maligata seta fato, de sa keleta hatu jarabile.
Anga fato de sa, anga fato, anga hawa jokunda fato, anga bodoni ami fato, anga hatene bodo fato de sa keleta te jarabila.
En pirogue, sur le fleuve Sénégal. Voilà. Et sur la rive, en face, on voit Gagny. La nuit descend. Et voilà où nous allons, dans cette petite ville qui s'appelle vraiment Gagny, c'est ininventable, sur le bord du fleuve Sénégal. Pourquoi nous allons là? Eh bien, on va retrouver Monsieur Adama Camara. Adama Camara, on l'a rencontré à l'aéroport de Bamako. Il était vraiment super. Un boubou vert, éclatant, magnifique. Un bonnet orné, brodé, un port vraiment de roi africain, avec un attaché-case, avec une montre, avec un magnifique bracelet doré, éclatant, formidable. Et on a parlé, on a pris l'avion ensemble pour Kaï, la capitale donc du pays Soninké. Et monsieur Adama Camara a eu la gentillesse de nous inviter chez lui, dans son village, qui s'appelle donc Gagny. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que Adama Camara habite en France, il habite à Meaux. Il s'occupe d'une association des Maliens. Il y a je ne sais plus combien de centaines d'associations des Maliens en France. Et il est éboueur à Meaux, dans la ville de Meaux. Depuis très longtemps, il est là-bas et il fait son travail d'éboueur. Il a une famille ici, en France, et une famille là-bas, à Gagny, au bord du fleuve Sénégal. Les immigrés, les sans-papiers sont un problème, un enjeu, on le voit encore ces jours-ci et cette semaine-ci. Mais qui sont ces gens-là? Personne ne s'en préoccupe. On en a fait une matière, du grain à moudre à l'intérieur de polémiques franco-françaises. Mais qui sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Comment vivent-ils? Que disent-ils? Quelle est leur voix? Quelle est leur image? Voilà pourquoi nous traversons ce fleuve alors qu'il est et que nous abordons à l'autre rive.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. C'est par ici?
Ouais, ouais.
On a tout le village qui nous suit, là. Il fait encore chaud, hein. Il fait bon. Tout le monde est habillé beau. Tout le monde a mis les plus beaux habits aujourd'hui, c'est la fête. Il y a un petit feu là, ça sent bon. Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, ça va? Comment va?
Bonsoir, ça va?
Bonsoir, ça va?
Oui, oui.
Comment va-t-il?
Ça va bien,
ça va bien.
Ça va? Oui, oui, ça va bien. Bonsoir, 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 bonsoir. Oh là là, la dame, elle a des beaux habits. Bonsoir, madame. Qu'elle est belle. Oh là là. Qu'est-ce que vous êtes belle.
C'est pas pour les Français.
C'est pour les Français.
Hey.
Il comprend pas. Alors on part tous les deux.
Comprends pas.
Ça va par ça?
Mais ça va bien.
Ah. On vous attendait.
Bonsoir madame. Ça va bien?
Ça va bien.
Et vous, ça va?
Ça va.
La maison, les enfants?
Ça va. Ça va la maison.
La santé?
Ça va la femme, oui.
Ma femme, oui, ça va bien.
Ah bah oui. Merci.
C'est la fête aujourd'hui, hein?
Ça va, vous?
Oui, ça va bien, ça va bien. Très bien, très bien. Un petit peu, mais ça va, ça va, ça va. On est content de vous voir là, tous.
On est sûr, on est content. Là, on est arrivé chez vous, là.
Ouais.
Vous êtes tous chez vous. Comme vous venez nous voir, on est super content. On est très content.
Merci. Merci de votre accueil. Oh, mais il y a l'électricité.
Hein? Pas tout à fait. C'est l'énergie solaire.
Ah, c'est l'énergie solaire.
Eh oui, l'énergie solaire pour éclairer cette cour où nous nous trouvons, c'est-à-dire le cas, comme on dit, une cour à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs maisons, les maisons de la famille d'Adama Camara. Et c'est là nous sommes reçus. Vous avez vu comment on est quand même très très bien reçus avec un sens de l'hospitalité. Alors c'est la fête aujourd'hui, c'est la fête de Tabaski, c'est-à-dire que c'est la fête de l'Aïd, c'est-à-dire que c'est la fête du mouton. Tout le monde s'est fait le plus beau possible, on essaye vraiment de se faire bien voir, et c'est réussi. Alors ce jour-là, eh ben, on fait du mouton, et on mange le mouton.
Eh bien c'était bon, hein.
Ah bon ?
On l'a bien mangé.
Ah, nous avons gagné aujourd'hui. Hein.
Et c'est la fête de Tabaski.
C'est la fête de Tabaski. Nous sommes en famille.
Voilà,
on était très famille. Contents, ouais. Très heureux. Alors, moi, je suis jeune émigré de Paris. Alors, ça fait 29 ans que j'habite à Paris.
29 ans.
29 ans, oui. J'ai avec ma famille. J'ai vu avec ma famille. Hein. J'ai avec mon épouse et mes enfants.
Là-bas ou ici ?
Là-bas, en France.
Ta femme, elle est là-bas.
Oui. J'en ai une aussi ici.
Ah !
J'ai deux épouses. Il y en a une à Paris avec 6 enfants. Mmh. Il y en a une ici avec 5 enfants.
11.
Voilà.
Papa de 11 enfants,
oui.
Et responsable de 2 femmes.
Des femmes, oui. Tous les ans, je viens conseiller par 1 mois, 15 jours. Ou ça dépend, 2 mois tous les ans. Venir voir la famille.
Parle-moi un peu de ce village-là qui s'appelle Gagny. Pour nous, c'est quand même extraordinaire, parce que Gagny, il y a un Gagny, tu sais bien, à côté de Paris, que tu connais, puisque tu es à côté de Meaux, c'est dans la direction de Meaux.
Bon, c'est un Gagny qui est au bord du Sénégal, Mali. C'est 4000 habitants.
4000
habitants, oui.
On disait tout à l'heure, c'est 4000 habitants, mais sur les 4000, il y a 2000 enfants, quoi.
2000 enfants, oui. Hein,
parce que vous êtes un pays très jeune, avec beaucoup d'enfants.
Ouais. Bon, alors...
Tu sais d'où ça vient, ce nom, Gagny ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bon, notre grand-père, qui s'appelle toujours Louis Gagny, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ce serait quand même drôle d'aller à Gagny, près de Paris, et dire aux gens, vous habitez dans un village soninquais, quoi.
Ouais, bon, toujours, ça fait drôle, parce que moi, j'ai à Paris, mais souvent, les gens me demandent, en disant que vous êtes à Gagny, Gagny ici. Bon, je dis non, j'ai Gagny au Mali.
Voilà, Gagny et Gagny, c'est vraiment pas évidemment le même décor, vous vous en doutez bien. Et comme beaucoup d'immigrés en France qui font la France, qui ont ces permes très courtes, ça ressemble tout à fait au service militaire. Enfin, c'est de la même nature hein, pour les Maliens que de venir en France. Alors, c'est évidemment le bonheur que d'être dans son village. Et bien sûr, Adama nous raconte comment il est venu en France il y a 29 ans, en bateau, l'arrivée, les premières impressions, le foyer, les copains, les déconvenus, les découvertes, par quoi on est attiré et par quoi on est poussé. Et puis, l'une des raisons de venir en France, il y a évidemment toutes les difficultés qu'on a derrière soi, les obligations ardentes, on va dire, mais il n'y a pas que ça.
On dit que partir à l'étranger, partir travailler en France, par exemple, c'était une obligation pour pouvoir se marier ensuite. Est-ce que c'était ton cas ?
Bon, oui, il y a un peu ça aussi. Moi, quand je suis parti à Paris, j'étais à l'âge de 20 ans, 21 ans. Hein. Bon, je suis parti pour le premier départ déjà, j'ai cherché une femme. Et après, je suis revenu, je suis remarié. Et après, j'ai continué à travailler pour faire nourrir la famille.
La famille d'ici ?
D'ici, oui. Voilà, puis ça continue. Après, et quelques années après, bon, j'ai dit, c'est trop dur, comme ça. Et puis, j'ai fait rentrer ma femme en France.
Elle vit où ? Elle vit en France maintenant ?
Oui.
Avec les cinq ?
Oui.
Avec les cinq diables ?
5 enfants, oui. Ils sont à l'école. Et ils voyagent comme moi. Ils viennent voir la famille tous les ans après les vacances. Les grandes vacances, je paye les billets. Pour qu'ils passent les familles, pour venir voir les familles ici.
Ah, d'accord. Tes enfants viennent ici régulièrement à Gagny, au bord du fleuve Sénégal.
Ouais, pour voir les familles, la vieille, maman, et puis les frères. Ils ont des frères ici, ils ont des sœurs, et il faut qu'ils se connaissent.
C'est ça.
Ouais.
Alors ensuite,
Tu as épousé une deuxième femme ici.
Une deuxième femme aussi, oui. Bon, elle vit ici avec les enfants. Bon, moi, tous les ans, je viens en vacances pour passer les vacances avec eux.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme boulot?
Aujourd'hui, je suis un éboueur à la ville de Meaux.
Tu es un éboueur de la ville de Meaux?
La ville de Meaux, oui. Ça fait 19 ans que je travaille à la ville de Meaux comme un éboueur.
Dis-moi si ce n'est pas indiscret, ce que tu fais de ton salaire?
Ah ben, moi, mon salaire de base, c'est de 8 000 francs, oui. Alors
de ces 8 000 francs, qu'est-ce que tu fais?
Ben, de ces 8 000 francs, parce que déjà j'ai vu avec ma famille ici. Et là, il faut que je les nourris. Il faut que je paye mon loyer et mon électricité. Donc après, j'ai des familles aussi au Mali. Alors il faut que j'en va tous les mois pour qu'ils puissent vivre ici.
Si c'est pas indiscret, combien tu envoies à ta famille d'ici chaque mois?
1000 francs tous les mois, hein. Des fois 1500 francs, parce que surtout avec les fêtes, tout ça, il faut que j'envoie un peu plus pour les enfants, pour qu'ils puissent acheter le nécessaire. Quoi.
Et en plus, tu envoies aussi de l'argent ici à l'association villageoise.
Voilà. Voilà, je vais vous parler ça un peu aussi parce que notre village, on a une association villageoise et ça a été créé depuis en 85. Alors, notre village, on a 180 émigrés en France.
C'est ça, sur 4000 habitants que vous êtes ici, dont on va dire 2000 enfants, on dit ça grosso modo,
ouais.
Vous avez 185,
ouais.
Qui sont 185 émigrés qui travaillent en France.
En France, oui.
Et chaque mois, depuis 1985, vous cotisez, vous envoyez de l'argent qui constitue la caisse de l'association villageoise.
Voilà, depuis 1985, on a commencé à cotiser. Premier départ, on a fait une coopérative villageoise. Et tous les villages y ravitaillaient parce qu'on a des marchandises. Et tous les villages, ils sont tous les marchandises sur place. Et on a fait ça. Et après, en 87, on a construit l'école, les 3 classes. Et puis après, en 88, on a construit un dispensaire maternité aussi. Donc tout ça, c'est les migrés qui font ça. Hein. On a cotisé, on continue à cotiser l'argent tous les mois.
Combien vous donnez chaque mois, chacun?
Ben, chaque mois, on donne 200 francs, chacun. 200 francs tous les mois.
Mosquée?
Mosquée aussi.
Comment vous faites pour payer le personnel de, je ne sais pas, du dispensaire, de les instituteurs, enfin... C'est vous qui payez ça aussi ou bien vous avez des aides?
Tout ça, c'est l'État qui paye ça pour nous, quoi. L'État malien.
Si bien que les immigrés ont considérablement amélioré le niveau de vie ici, dans le village, dans tous les domaines, école, santé, etc.
Tout à fait. On a compris qu'à l'avenir, les jeunes, il faut qu'ils fassent quelque chose parce qu'ils ne peuvent pas rester comme ça. Et puis on a construit l'école pour les enfants.
Qu'est-ce que vous vouliez? Vous vouliez que les enfants restent ici, restent au village?
Bien sûr, parce qu'il faut qu'ils restent là pour l'étude.
Pour les études, mais après?
Après, bon, ben, ils décident, quoi. S'ils veulent, si on a le moyen, s'ils veulent aller en France, ils vont en France. S'il n'y a pas de moyen pour aller en France, ils vont ailleurs. Mais
il faudra aller quelque part.
À la fin de l'étude, ils ne vont pas rester là. Il faut qu'ils aillent quelque part, comme nous.
Parce que c'est une nécessité économique ou bien parce que c'est une tradition? Pourquoi?
Non, c'était une nécessité économique. Parce que c'est moyen, parce que ça, il faut une machine, une pompe, déjà, pour faire tirer l'eau. Alors, on n'a pas ça. Et on a essayé, quand même, les jeunes, ils ont essayé quand même de faire un petit peu, quand même, mais comme ils n'ont pas un grand moyen, bon, ils ne peuvent pas continuer. Quoi. Sinon, nous pensons toujours de faire quelque chose pour les jeunes, pour qu'ils puissent rester sur place, voilà, pour gagner leur vie.
Travailler, peine de la peine, c'est le fond qui m'appelle moi. N'a pas libanga, pote nos oua mosolo. N'a ma tokina yande o jili futa. N'a balaka bibio.
Oh, la vie est belle.
Loba et moro pemba.
Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle.
Oh, article 15.
Oh, la vie est belle.
Débrouillez-vous.
Oh, la vie est belle.
Amertume africaine au bord du fleuve Sénégal, dans la région du fleuve, au pays Soninké. Et on passe la soirée, la nuit avance. On parle de choses et d'autres avec nos amis, avec des petits thés chauds, brûlants, minuscules qui nous arrivent de temps en temps. C'est très agréable. Puis il y a des sujets quand même qui nous travaillent beaucoup sur ce pays, sur cette culture, sur ce peuple, etc. Et on a la chance que Jibril, Monsieur Jean, fasse partie de ceux que j'appelle les ethnologues naturels.
C'est les amis qui habitent à côté, là. Comme son fils est le plus âgé un peu, il est le chef, quoi. Voilà. Comme lui, il est camarade. Camarade, c'est des notables d'ici. C'est les chefs de village, les familles des chefs de village. Bon, il est le chef.
Oui, il faut dire que c'est très hiérarchisé encore, votre village. Hein. La société est très hiérarchisée. Hein.
Non, c'est leur coutume.
Oui, c'est la coutume. Ah,
c'est nos camarades seulement qui seront les chefs ici.
Ah oui, c'est
les plus âgés, les camarades.
Le plus âgé.
Le plus vieux, c'est lui qui est le chef de village.
Le plus vieux.
C'est pas dans les mêmes maisons, hein? Non. Ouais. Il y a plusieurs maisons de camarades ici. Ouais. Sur 4 ou 5 maisons. Bon, c'est lui le plus âgé, c'est lui le chef de village. Ça, c'est le coutume, quoi. Voilà.
Il y a les camarades qui sont en haut, c'est les chefs. Et puis après, les gens. Est-ce qu'il y a d'autres castes?
Ouais,
par exemple, les cordonniers, par exemple.
Oui, il y a les cordonniers, il y a les griots, il y a les forcerons.
Tout ça, ça marche encore dans le village?
Oui, pas comme avant, mais quand même, on les surnomme. On les surnomme.
Et toi, tu es quoi, par exemple?
Moi, je suis Mabo, tisserand, d'origine, quoi.
D'origine. Et ça
veut
dire...
maintenant, je ne sais même pas comment on tisse.
Tu ne sais pas comment on tisse, mais n'empêche que tu appartiens à la caste des tisserands.
Oui.
Et ça, c'est bien ou pas bien? C'est noble
bon,
ou pas noble?
Pour moi, mais non, le tisserand, c'est noble. Ouais. Mais seulement, c'est la famille, c'est tout.
D'accord.
Ça n'empêche pas que tu sois conseiller ou que tu sois...
Ouais. Ce que j'arrive pas très bien à comprendre, c'est le système des esclaves, la caste des esclaves.
Ouais.
Est-ce qu'il y en a ici dans le village de Gagny? Est-ce qu'il y a des esclaves encore?
Ouais, pas comme avant. Hein. On les surnomme jusqu'à présent. Bon, ça continue toujours, mais c'est pas comme avant, hein. Tu les tiens, tu les fais ce que tu veux, tu les fais faire ce que tu veux, non?
Non.
Non, ça n'existe plus.
Mais ça existait autrefois.
Ça existait autrefois. Alors, mais jusqu'à présent, on ne se marie pas. Un esclave ne se marie pas avec un noble. Un griot ne se marie pas avec un esclave.
Un griot, est-ce qu'un griot peut se marier avec un tisserand?
Oui.
Est-ce qu'un tisserand...
Un forceron aussi.
Est-ce qu'un forgeron peut se marier avec un cordonnier?
Il y en a qui ne veulent pas.
Mais en tous les cas, personne ne se marie avec un esclave.
Sauf un esclave.
Toujours aujourd'hui.
Bon, enfin, d'habitude. Mais peut-être il y en a qui le font, mais ça, c'est pas normal quand même. Il y en a qui commencent à le faire.
Même si
ça commence.
Ça commence à...
Dans les grands villages.
Dans les grandes villes. Ah, d'accord.
Oh, ça dépend aussi dans les petits. Il y a des villages même que ça se fait, mais c'est très, très, très rare. C'est très rare.
Ah, ah, ah. Et ici, par exemple, à Gagny, il y a combien d'esclaves, disons? Quel est le pourcentage?
Ils sont nombreux.
Ils sont nombreux.
Presque, je peux dire qu'ils sont un peu plus nombreux que nous. Peut-être au moins 5 ou 6 maisons plus nombreuses.
Ouais.
Les forcerons, les tisserands, les griots, ils sont parmi les nobles.
Tout ça, c'est la noblesse.
C'est la noblesse. Bon, au nombre de 40, 45, 46 maisons. Bon, les esclaves sont après 48, 49.
Ah.
Seulement, les maisons ne sont pas les mêmes. Les grandes maisons, la plupart des grandes maisons, c'est des nobles. Voilà. Les esclaves, il y a des grandes maisons, mais ce n'est pas aussi nombreux que...
Ce n'est pas des maisons aussi grandes. Alors,
il y en a des grandes.
Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut être un esclave et être assez riche.
Mais oui, beaucoup riche même.
Et on peut très bien être un tisserand ou un cordonnier ou un chef de village et être pauvre.
Ben oui, bien sûr.
Ça n'a rien à voir avec l'argent.
Non. Tu peux être riche, un esclave peut être riche.
Conversation au bord du fleuve Sénégal sur les castes en Afrique, qui persistent dans cette région, et même parfois qui connaissent un certain regain identitaire, on va appeler ça comme ça. Et c'est comme ça qu'on vit. Il ne s'agit pas d'angéliser, ni de diaboliser les uns ou les autres, mais simplement de faire connaître, de dire voilà, montrer aux uns comment les autres vivent.
Toi, ce que tu dis, c'est que ici, au Mali, quelqu'un qui a 3000 francs par mois peut faire vivre combien ? 10 personnes ?
Ben, en moyenne, oui.
Sans problème ?
Sans problème.
Au revoir.
Au revoir.
Bon, on dit à la prochaine, hein. Tu vois, on peut se voir, hein, hein, à Paris, hein, si on a l'occasion de se voir à Paris.
Ah bah bien sûr, tu parles.
Bon,
alors, au revoir.
Au revoir. Bon voyage.
Merci.
Bon voyage. Peut-être.
On va traverser la rivière.
Peut-être la fin d'année.
Peut-être à bientôt.
Ouais. Bon voyage.
Merci beaucoup.
Bon, au revoir.
La fin d'année, alors.
Ah, au revoir. Au revoir. Comment on dit au revoir ?
Eh ouais, Anikouni.
Tu vas ?
Anikouni.
Anikouni.
Voilà.
Anikouni. Ouais. Ça va, c'est bien ? Anikouni. Ok. Bye bye.
Sous une plaie saison, Afrique ton œil, ça met le pet amour au beau pays d'azur. Toi, ma belle Kabibi, aux yeux remplis d'amour, Bolingo, te va s'effondrer en larmes, rougir tes yeux au cœur brisé. Sous une belle saison, Afrique en ton œil, ça mélopée d'amour, au beau pays d'azur. Toi, ma belle Kabibi, aux yeux remplis d'amour, Bolingo, te va s'effondrer en larmes, rougir tes yeux au cœur brisé. Sous une belle saison, l'Afrique en ton œil, ça mélopée d'amour, au beau pays d'azur.
Le village mondial est une terre de contraste. Traversons le fleuve Sénégal et nous nous retrouvons à Mo, dans la ville de Mo, quelques jours plus tard, avec notre ami Adama Camara, qui a ôté sa grande djellaba coloriée, superbe, etc., et qui a revêtu les habits d'éboueur de la ville de Mo, tel que l'ont rencontré Give et Zoé.
Pendant combien d'heures vous faites ça le matin ?
On commence à 6h jusqu'à 13h.
Give, quand tu vas retourner à Gagny ?
Aussi tôt que possible, parce que là ça change de la dernière fois qu'on s'est vu.
Ah ouais.
C'était quoi ? C'était la nuit, il faisait beau,
ouais.
On était près du fleuve Sénégal,
ouais.
On entendait le bruit des oiseaux.
Ça change. Quand je suis là-bas, je suis chef de famille, chef de village, et puis ici, je suis derrière une benne. Ouais,
voilà, quand vous êtes ici, vous êtes un ouvrier, quoi.
Ouais, un ouvrier, oui.
Et là-bas, vous êtes un noble, alors ? Chef de famille, ça fait partie des nobles ?
Ouais.
Mais c'est vous qui avez la responsabilité du village, même quand vous êtes absent ?
C'est mon grand frère.
Ouais, qui est là-bas ?
Qui est là-bas, oui. C'est mon père, hein. Et mon père est décédé, c'est mon grand-père qui... responsable des villages.
Et vous avez des nouvelles? On vous donne des nouvelles? Vous êtes au courant de tout ce qui se passe au village?
Oui, oui, tout le temps. Même hier, mon grand-père, il était venu à Caille pour me téléphoner, pour me donner des nouvelles.
Ah bon? Ah ouais?
Ouais.
Alors, et alors, comment ça va?
À Caille, maintenant.
Ça va, ça passe bien. Et mon grand-père, c'est un ancien migré aussi. Il est parti en vacances.
Ah, il est juste parti?
Ouais, j'en ai deux, quoi. Et l'autre, il est parti en vacances, il est là-bas.
Et votre grand frère, il fait quoi, lui, comme travail ici en France?
Ben, il fait les caristes.
Vous êtes coupé en deux?
Ouais. Moitié ici, moitié là-bas.
C'est Philippe, votre prénom, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Il vous a un peu raconté sa vie et son village et comment il vivait là-bas au Mali, pas du tout? Vous connaissez
non.
Rien de lui?
Ah non, je sais qu'il est malien, mais à part ça, bon, bah, c'est tout, quoi.
Vous savez pas que c'est un chef de village?
Non.
Un noble?
Ah, bah ouais, bah, il raconte rien, bon. En plus, s'il est vraiment noble, je me demande qu'est-ce qu'il se fait à travailler à la ville en tant qu'éboueur. C'est pas très valorisant, franchement, d'être éboueur. Hein.
C'est dur, hein?
Ouais, c'est dur. On doit être crevé à force de monter et de descendre, hein?
Bah oui.
Travaille, quoi.
Vous vous dites faut travailler.
Et oui, la vie c'est ça, hein, parce que faut qu'on travaille, sinon ça va pas. Donc en ce moment, il n'y a pas de boulot. Une fois qu'on a le travail, il faut qu'on travaille.
Ouais.
C'est ça, quoi.
Ouais, faut en profiter.
Ouais.
Il faut en profiter. Il faut évidemment en profiter. Les Maliens sont inqués en France comme dans leur pays, qu'ils soient dans la légalité ou non, avec ou sans papier, ont une fierté. C'est que les leurs, là-bas, en dépit des difficultés de toutes sortes, notamment les difficultés climatiques, le désert avance, les sécheresses ont été terribles, mortalité terrible, on s'en souvient, dans le Sahel, mais pas là. Mais pas dans cette région-là, parce que, avec leur travail, avec leur façon de s'organiser, ils ont réussi à survivre et à faire survivre les leurs. Là, maintenant, avec Adama Camara, on va rendre visite à la famille dans une cité, à la cité Pierre Collinet, à Meaux, où, par hasard, il se trouve qu'il y a autant d'habitants qu'à Gagny, au bord du fleuve Sénégal.
Voilà, on est arrivé. Bonjour.
Ça va bien?
Vous voulez, on aurait joué dans le couloir.
C'est
là, les garçons, ça s'appelle Gala. Celui-là, il s'appelle Moussa.
Bonjour.
Et puis, il y a une petite fille qui s'appelle Kumba.
Non.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu à Gagny, alors?
On est en famille, hein, avec les copains. Hein. On voyage, on va à Caille, on vient, on discute. Et puis,
on fait toutes les visites.
On fait les visites au village, entre villages, quoi.
Et après, il a fallu commencer à faire les adieux.
Ouais.
Et c'était pas trop dur de partir?
Je suis dur, hein. Même moi je suis dur, très dur. Quand j'arrivais c'est bon, mais au retour c'est dur, très dur. C'est dur de quitter la famille pour revenir encore ici, c'est dur.
Et alors comment on fait pour tenir le coup?
Comment on fait, je sais pas, hein. Un jour ou l'autre on va rester. Hein.
Vous attendez que ça?
Oui, c'est tout ce que j'attends, oui.
Et ça c'est pour dans combien de temps à votre avis?
Je pense dans 6 ans.
Dans 6 ans?
Ouais. Je pense dans 5-6 ans, mon retraite, après mon retraite, et je vais retour. Enfin, c'est retour au pays. Hein.
Et sans regret de quitter la France?
Moi, non. Ouais. Non, non. Parce que j'aime bien au pays. C'est ça.
Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, tout ce que vous vivez, c'est en attendant? En attendant, en attendant?
Moi, oui. Là, j'ai toujours, en attendant. Moi, toujours pareil. Je n'aime même pas rester ici. je vis mal, quoi.
Ah oui.
Ouais. Quand je suis là-bas, je suis à l'aise. Mais ici, bon, avec un peu de mal, quoi. Mais j'ai pas le choix.
Qu'est-ce qui vous met mal?
Bon, tu es là-bas, tu es dans les familles, tout ça, tu es connu. Et puis, ça va. Mais ici, qui? Oui. Oui. Tous les jours, presque tous les jours, quand même. Il y a un moment, il faut que je pense là-bas, quoi. Je pense à mes copains, à ma famille, tout ça. Et puis, je pense à ce que je dois faire là-bas, tout ça. Je pense pour l'avenir. Parce que quand je vais aller m'installer là-bas, il faut que je pense aussi à l'avenir. Qu'est-ce que je fais là-bas et puis tout ça, quoi.
Et alors, qu'est-ce que vous allez faire?
Ah ben, pour l'instant, je n'ai pas mis un projet définitif sur la tête, mais j'ai quand même un projet.
Lequel?
Le retour. Par exemple, un projet de maraîcher.
Vous avez la tête là-bas, hein?
Oui.
Même sur le camion?
Même sur les camions, oui. Je me mets au pays, c'est ça? C'est tout, pas autre chose.
Ouais.
Bon, on va manger.
La quoi?
Là, c'est des riz. Mm-hmm. Avec quelque chose.
Les choses de soupe kanya.
C'est dur à vivre ici parce que la vie, c'est trop cher. C'est dur, hein, parce qu'avec une grande famille, et puis tu essaies de vivre, faire vivre les parents, les familles qui sont là-bas. Et puis, c'est dur.
Là, il y a combien d'enfants? Parce que vous avez combien d'enfants, là?
Là, j'en ai 8.
8, avec vos deux femmes, mmh. Plus votre femme là-bas, qu'on a 6.
Ouais, ouais. C'est dur. Ça va pas, quoi.
Est-ce que vous regrettez d'être venu en France?
Non, pas du tout. Ben, quand je venais, je suis jeune, puis je travaille, puis ça va. Mais là, bon, comme j'ai commencé un peu âgé, bon, ben, c'est là que j'ai commencé à réfléchir pour retourner au pays, quoi, pour ne pas rester là.
T'as quel âge?
11 ans. 10 ans et demi.
10 ans et demi. Pendant combien de temps t'es resté là-bas au Mali?
2 mois.
Et c'était comment?
Bien.
Qu'est-ce que t'as fait?
Parti à l'école. Ouais. J'ai joué.
Et tu te sentais chez toi? Ou tu te sentais dans un pays étranger?
Chez moi.
Et ici, tu te sens où?
Mais chez moi encore.
Kono.
Moussa, Moussa, Moussa. Où est-ce que tu te sens le mieux?
En Afrique.
En Afrique?
Ça fait longtemps que je ne vois pas.
Qu'est-ce qu'elle a dit ta maman?
Parce qu'elle regarde un film.
C'est l'heure des fêtes de l'amour.
Oui. C'est tout sur l'air comme ça. On va y regarder.
Vous êtes en train de broder des draps?
Oui.
Des coques?
Oui.
Et c'est un sacré travail?
Oui.
Vous êtes tranquillement installé dans votre canapé?
C'est ça.
C'est ça. Voilà. Avec la télé juste en face, et ouais. C'est les feux de l'amour.
Oui.
C'est sa sœur?
Oui, c'est ça.
Docteur Hastings, il y a votre sœur qui m'a demandé de vous donner ça. Ma sœur, vous dites? Elle a dit que c'était très important.
Je crois que c'est les...
Tante mamie, je vais essayer d'entrer dans la chambre pour être avec Olivia.
Embrasse la fleur pour moi.
Promis.
C'était la double vie d'Adama Camara. Nouvelle version d'un reportage de Guy Vanctil, Zoé Varier et Daniel Mermet, diffusé pour la première fois le 27 mai 1997. Antoine Chao était ce matin avec les salariés de PSA en lutte. Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez participer à la caisse de grève en vous rendant sur le site cgt-psa-aulnay.fr. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site France Inter, sur le site labas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et David Federman. C'était une émission réalisée par Lucie Hakoun et Chloé Sanchez et préparée avec Grégory Salamonovitch. Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Futuroscope. Dis, tu m'emmènes à ta robot party au Futuroscope ?
Maman, danser avec un robot à 7 mètres de haut dans une ambiance électro-survoltée, tu crois vraiment que c'est de ton âge ?
Oh, s'il te plaît !
Bon, mais tu me promets de pas crier.
La première robot party par Martin Solveig dans la nouvelle attraction du Futuroscope, c'est pour toute la famille.
Faites vite, moins 20% sur les séjours pour une réservation jusqu'au 3 février. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
France Inter présente Superstar en DVD. Un inconnu devient subitement célèbre sans savoir pourquoi.
Tous ces gens qui me reconnaissent, qui me demandent des autographes, calmez qu'est-ce qui se passe, c'est ça un truc de fou.
Attends, calmez-vous.
Un film fascinant sur la médiatisation et la célébrité avec Calmerade et Cécile de France.
Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ?
Superstar de Xavier Giannoli, un DVD Blu-ray France Inter.
Dans le cadre de la carte blanche à François Morel, France Inter et La Pépinière présentent Instant Critique. Mise en scène et adaptée par François Morel avec Olivier Broche, Olivier Saladin et Lucrèce Sacella autour des voix légendaires de Jean-Louis Bory et Georges Charansol du Masque et la Plume.
Au cours des dernières 20 minutes de Pierrot Louf, il est sorti exactement 14 personnes de la salle. Ils s'embêtaient tellement.
Retrouvez Instant Critique actuellement à la Pépinière dans les émissions de France Inter.
C'est une fleur dans mon jardin.
Et sur franceinter.fr.
France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Les parlementaires du Front de Gauche déposeront d'ici une dizaine de jours une proposition de loi contre les licenciements boursiers. Une décision annoncée aujourd'hui et qui intervient donc le jour où plusieurs centaines de salariés de Sanofi, PSA, Fralibre et autres Candia sont dans la rue devant le ministère du Travail à Paris pour réclamer la même chose au gouvernement. La droite jugera dans quelques années que le mariage gay est une avancée, tout comme elle l'estime aujourd'hui pour le Pax. J'en fais le pari. Les mots de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, en début d'après-midi à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement, car on y est, ou presque, après les questions d'actualité qui vont bientôt terminer. Les députés rentreront ensuite dans le vif du sujet avec l'examen du texte sur le mariage homosexuel. 15 jours de débat sont prévus. L'UMP et l'opposition en général a déposé 5000 amendements et 3 motions de procédure, réclamant notamment la tenue d'un référendum sur le sujet. Parmi les amendements déposés, on notera celui du maire d'Orange, Jacques Bompard, qui veut pousser la folle logique, dit-il, de l'égalité dans tous ses développements, avec l'ouverture du mariage aux polygames, aux incestueux et aux amateurs de jeunes mineurs. Le vote du texte, en tout cas, lui, est prévu le 12 février prochain. Ensuite, le document ira au Sénat. À l'étranger, pendant qu'en Éthiopie, la communauté internationale chiffre les besoins du Mali pour mener à terme l'intervention militaire et reconstruire le pays, sur le terrain, les soldats nigériens et maliens sont entrés cet après-midi à Ansongo, une ville située à 80 km de Gao, c'est au nord de Bamako. Manuel Valls a présenté aujourd'hui un nouveau plan de redéploiement entre la police et la gendarmerie. Une quarantaine de communes sont concernées sur le territoire, soit au total 237 000 habitants concernés par le mouvement. Mais certains syndicats de police dénoncent déjà aujourd'hui la fermeture de 8 commissariats. Les 19 communes dont ils s'occupaient vont basculer en zone gendarmerie, inversement pour 9 brigades de gendarmerie qui vont basculer en zone police. Ce mouvement, en fait, devrait permettre de dégager des effectifs pour les zones de sécurité prioritaires, vitrines pour le ministre de l'Intérieur. Une femme de 67 ans est morte ce matin dans la Loire, égorgée par un inconnu en plein supermarché. L'agresseur a aussitôt pris la fuite. L'allemand BASF annonce aujourd'hui avoir retiré ses demandes d'autorisation de commercialisation de pommes de terre OGM dans l'Union européenne. Le numéro 1 mondial de la chimie explique qu'il y a trop d'incertitudes à poursuivre les investissements dans ce domaine. L'an dernier, à la même époque, BASF avait déjà décidé de cesser de développer de nouveaux OGM pour le marché européen, face en fait à la méfiance envers ces produits. Le chimiste allemand avait préféré recentrer ses activités dans des régions plus clémentes aux OGM, comme les États-Unis. Enfin, c'est la crise pour tout le monde. La réunion d'athlétisme de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, prévue au mois de juin prochain, est annulée faute de budget suffisant. Le manager général du rendez-vous a confirmé aujourd'hui l'information donnée par le journal L'Équipe ce matin. Il nous manque, dit Jean-Pierre Vatel, 350 000 euros. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Demain,
France Inter présente.
I am the President of the United States.
Lincoln.
I am a prejudiced man.
Le dernier film de Steven Spielberg.
Congress must never declare equal those whom God created unequal.
À l'occasion de la sortie en salle du film aux 12 nominations, France Inter consacre toute une journée à Abraham Lincoln.
These votes must be procured.
L'un des présidents les plus emblématiques de l'histoire des États-Unis.
It's true.
Retrouvez Steven Spielberg et Daniel Day-Lewis en interview exclusive. À partir de 7h dans la matinale de Patrick Cohen. À 18h20 dans Downtown de Philippe Collin et Xavier Mauduit. Et à 13h30,
Slavery, sir.
Marche de l'histoire spéciale.
It's done.
Jean Lebrun revient sur l'abolition de l'esclavage et sur la vie des Noirs aux États-Unis après Lincoln avec son invité Pap Ndiaye.
This amendment is that cure.
Toute une journée avec Abraham Lincoln.
Insult God.
À suivre sur France Inter, demain, à partir de 7h. France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Merci Laetitia Gaillet, à tout à l'heure, à 17h, hein, c'est bien ça. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Un programme riche aujourd'hui et tout d'abord un pianiste magnifique qu'on entend trop peu en France et on ne sait jamais pourquoi. Quelquefois question d'engagement à l'étranger, quelquefois question d'organisation, d'imprésario. Mais en tout cas, on apprécie énormément Nelson Gurner qui est né à San Pedro en Argentine en 1969 et il a commencé dans son pays à Buenos Aires à étudier. Il a donné son premier concert dans sa ville natale et puis voilà les prix qui arrivent. Le premier prix du concours Franz Liszt à Buenos Aires et Martha Argerich le découvre, lui fait décerner une bourse d'études qui lui permet d'aller étudier à Genève avec la grande pédagogue Maria Tipo et puis Nelson Gurner gagne le concours de Genève, ce qui n'est pas évident. Les plus grands, quelquefois, ont été déçus. Ils n'ont pas eu le premier prix. Lui, il a eu l'unanimité, tout simplement, avec le troisième concerto de Rachmaninoff. Eh bien, il est à Paris bientôt. Ce sera le 7 février. Voici un test, en quelque sorte, pour tout pianiste interpréter ce test. En tout cas, il démontre là ses capacités par Nelson Gurner, la première étude de Frédéric Chopin. Thank you. Frédéric Chopin, première étude pour le piano, un véritable exploit, parce que jouer ça comme ça, c'est magnifique. La fausse note guette à chaque instant, je peux vous l'affirmer. Donc ça a été enregistré en plus en public le 1er octobre 2009 au Wigmore Hall de Londres par Nelson Gurner, que nous recevrons d'ailleurs le mercredi 6 février ici, dans ce studio de France Inter à 16h30. Et il joue donc à Paris le lendemain, jeudi 20h30 à la salle Gaveau. Et nous avons le plaisir, pour ceux qui téléphonent vite, d'avoir des places, de vous proposer de la part de Naïve qui a institué cette série de concerts Gaveau intime. Donc des places, 50 places pour deux personnes, c'est-à-dire 100 places en tout. Voici le numéro, non pas celui de France Inter, mais celui que je vais maintenant citer, 01 56 02 20 31. Je répète, 01 56 02 20 31. C'est pour le jeudi 7 février, salle Gaveau à Paris, 45 rue La Boétie. Et donc, voilà, c'est une très belle salle, c'est un très beau pianiste. Et bon, on est content quand il y a des occasions comme ça de vous envoyer au concert. Et alors, téléphonez si vous voulez, et ce sera un très bon moment garanti. Voici un autre moment important de ce concert donné au Wigmore Hall en 2009 par Nelson Gurner. C'est la Grande Polonaise, opus 22, du même Frédéric Chopin.